le patriotisme, c'est à la mode aujourd'hui, pas uniquement en Pologne. On observe quelque chose de genre de pop patriotisme, ou même pop nationalisme.
On dit qu'il n'y a ni ségrégation, ni discrimination, mais c'est un mensonge, particulièrement dans la Hongrie d'aujourd'hui. C'est de plus en plus dur.
Finalement, on voit très bien ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe en Hongrie. Et peut-être, bientôt en Slovaquie, on sait qu'effectivement, on accentue plutôt la sécurité que la liberté.
En 6 ans, il a transformé la Hongrie de façon radicale. D'abord l'éducation, en confiant à l'Église, mais aux frais de l'État, une bonne partie des écoles, en limitant la liberté pédagogique des enseignants, en réécrivant certains programmes. Ce qui lui vaut, en ce moment, des manifestations jusqu'à 15 000 personnes ce mardi, ce qui, à Budapest, est énorme. En muselant aussi les médias, la télévision publique en particulier n'est plus que propagande, en bridant la justice et en faisant la promotion d'une démocratie ouvertement illibérale sur le modèle de Singapour. Par exemple, Viktor Orban, puisque c'est lui qui orchestre toute cette politique, ferme aussi ses frontières aux migrants. Il affiche partout que les quotas augmentent la menace terroriste et il surfe sur une vague chrétienne nationale. En 6 ans, je le disais, il a refaçonné le visage de la Hongrie. Plus rapide encore, son voisin polonais, Jarosław Kaczyński, tire lui les ficelles d'un gouvernement dirigé par une très fidèle, Beata Szydło. Kaczyński a donc initié en 100 jours seulement des réformes là aussi radicales. D'abord la justice. 5 nouveaux juges sont arrivés au tribunal constitutionnel qui n'a plus le droit de juger les réformes du gouvernement. Le pouvoir démet également les patrons des médias. Il nomme des journalistes à sa botte. Il surfe également sur la hantise d'une arrivée massive de migrants. Ces dérives valent à Varsovie l'ouverture en ce moment d'une enquête préliminaire sur l'état de droit en Pologne. Pourra-t-on prédire pareil succès, si j'ose dire, à la Slovaquie ? Le Premier ministre Robert Fico, qui se dit étonnamment toujours de centre-gauche, vient de sauver sa peau lors des dernières élections législatives en mars, mais il a perdu la moitié de ses députés. Lui qui avait fait campagne sur la peur des migrants musulmans toujours, voit arriver au Parlement un parti ouvertement néo-nazi et 6 autres formations politiques qui l'empêchent pour l'instant de former un gouvernement. La tentation populiste en Europe centrale, ce sont 3 reportages aujourd'hui en Slovaquie, en Hongrie et en Pologne. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous avons invité Frédéric Salewski. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à Paris-Ouest Nanterre. Vous travaillez pour l'Institut des sciences sociales du politique au sein de cette université, donc à Nanterre. Et puis vous avez publié, je vais citer l'un de vos ouvrages, Introduction à l'Europe post-communiste, publié chez Deux Books. Et nous sommes aussi en studio avec Éric Biegala et Bruno Caden. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bruno, vous rentrez de Slovaquie. Ce sera l'objet de notre premier reportage. Vous y avez couvert il y a 15 jours les élections législatives, des élections marquées notamment par un effacement du clivage gauche-droite.
Ce reportage débute sur les hauteurs de Bratislava au Parlement slovaque, en face du célèbre château de Bratislava. Nous sommes dans le bureau de Luboš Blaha, député du parti Smer Social-Démocratie du Premier ministre Robert Fico. Il nous reçoit devant un buste de Karl Marx et un portrait de l'ancien dirigeant communiste du printemps de Prague, le Slovaque Alexander Dubček. Luboš Blaha se présente comme un homme de gauche radical, ami de Die Linke en Allemagne. Pourtant, son discours sur les migrants ne correspond pas vraiment à ce que l'on pourrait attendre d'un tel homme. En Slovaquie, la frontière gauche-droite est visiblement devenue floue.
Cette région est beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus traditionnelle que l'Europe de l'Ouest. Et je ne pense pas que vous puissiez changer cela. Et je ne suis même pas persuadé que ce changement serait positif pour cette région. Le modèle libéral à la suédoise n'est pas bon pour tous les pays du monde. Ce n'est pas la meilleure solution pour la Chine. Cela ne l'est pas pour la Russie, pas pour l'Iran. Et je ne suis pas certain que cela soit bon pour la Slovaquie. Je ne pense pas que le projet de l'Union européenne soit de toute homogénéisée. Donc je pense qu'il faut respecter les autres cultures. Et au final, je pense que l'économie est un sujet beaucoup plus important que les droits des LGBT et le multiculturalisme. C'est pour cela que je pense qu'il faut au final respecter le peuple slovaque, respecter son histoire et respecter le fait que pour chaque changement, il faut du temps. Notre population est à 80% contre les quotas d'accueil des migrants. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Nous ne sommes pas des staliniens, nous sommes des démocrates. Nous devons respecter le fait que les gens ont peur. En Slovaquie, nous ne vivons pas à côté de musulmans. On voit juste à la télévision qu'ils coupent des têtes en Syrie. Je veux dire, tous ces terroristes de l'État islamique. Alors bien sûr, il y a parfois de l'hystérie irrationnelle dans la tête des gens. Mais de l'autre côté, c'est également une peur rationnelle. Et c'est tout à fait légitime que les gens aient peur des réfugiés quand il n'y a aucun contrôle aux frontières. Je serai très franc avec vous, si les partis de gouvernement en Slovaquie, République tchèque, Pologne, Hongrie ne réagissaient pas si durement sur ce sujet de la crise des migrants, vous auriez alors 30% de votes pour des fascistes et cela, ce serait vraiment dangereux. C'est pour cela que si nous ne voulons pas perdre le contact avec notre peuple, avec ce que pensent les gens, vous devez être sur la même ligne qu'eux, mais en leur expliquant, mais pas en les dégoûtant.
L'Europe centrale serait donc devenue le laboratoire d'une nouvelle ligne de fracture politique, non plus entre gauche et droite, mais entre tenants d'un régime fort et défenseurs de la démocratie libérale, Michal Havran, responsable du bloc Yetotak.
Finalement, on voit très bien ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe en Hongrie, et peut-être bientôt en Slovaquie, on ne sait pas pour l'instant. C'est qu'effectivement, on accentue plutôt la sécurité que la liberté. Et c'est une grande nouveauté. Il y a en fait une espèce de refus de l'idée de fondatrice de liberté de la société. Et ça mélangé avec le crainte de l'islam, comme l'Europe centrale depuis un certain temps est un laboratoire politique de l'Union, effectivement il y a des tendances qui vont apparaître sans doute plus tard dans d'autres pays, notamment en Autriche, notamment en Slovénie, en Croatie, et ensuite ça va aller vers l'Allemagne et tout ça. Parce que tout simplement, comme on a joui d'une légende un peu bizarre, qu'on était le pays qui se sont dressés contre le communisme, donc forcément ceux qui se sont dressés contre le communisme ne peuvent pas se tromper, parce qu'ils ont une intuition historique. Et ceux qui ont une intuition historique, il faut le suivre. Moi, je suis vraiment étonné de voir que Fico, par exemple, est extrêmement populaire en Allemagne. Il est considéré comme une espèce de héros d'une nouvelle Europe, de quelqu'un qui a une vraie prise de conscience, alors qu'en vérité, on sait que c'est juste un jeu qui va sans doute s'estomper, mais aura des conséquences sur la vie politique, pas seulement du pays, mais de toute la région et de l'Europe.
Alors justement, vous en avez parlé dans l'inconscient collectif, l'Europe centrale, c'est 89 et Václav Havel. Il en reste encore quelque chose ?
Non, c'est fini ça. Ça, c'est fini définitivement. Et on peut dire aujourd'hui que l'héritage qu'on a eu de cette période, on l'a dilapidé de manière le plus idiot qu'on ait pu faire. On avait utilisé cette espèce de capital pour exploiter ou créer en fait une sympathie à l'Ouest, mais on n'a pas réussi à la cultiver, à en faire quelque chose de durable et de stable politiquement. Il n'y a pas de havelisme aujourd'hui, proprement dit, comme un courant de pensée. En tout cas, il est vrai qu'on assiste aujourd'hui à une véritable contre-révolution de conservateurs en Europe centrale. Tout ce qui était battu, certains dans les années 30, certains en 45, d'autres encore en 89, ont réussi à se refaire une nouvelle vie politique, une nouvelle vie idéologique, et ils nous proposent aujourd'hui un cocktail terrible qui est une mélange de nouvelles technologies, de religion, de peur millénariste, de l'islam qui avance, d'une idée d'autoprojection de pays de l'Europe centrale comme le dernier rempart contre l'invasion barbare. C'est une véritable question. Si l'Union n'a pas raté une occasion de se transformer éventuellement en une union politique. Et là, ce qu'on va voir, c'est éventuellement une deuxième, une troisième, on va dire, guerre civile, mais plutôt culturelle, entre les anciens et les modernes, partout en Europe centrale.
Sur la crise des migrants, un front du refus s'est créé en Europe centrale. Le Hongrois Viktor Orban, le Polonais Jarosław Kaczyński et le Slovaque Robert Fico, tous unis contre les quotas de réfugiés. Mais sont-ils les mêmes ? Andrei Matyshek, journaliste au quotidien de gauche, Pravda.
Ils sont différents, mais je pense qu'il y a quand même quelques similitudes. Mais si nous parlons de M. Orban a pu prendre le pouvoir en Hongrie relativement facilement à cause de l'échec lamentable du gouvernement socialiste précédent. La Hongrie n'est pas un pays très grand, avec des médias et une société civile pas si fort que ça. Si nous parlons de la Pologne, je pense que la situation sera très, très différente. Car même si droit et justice gagnent les élections, s'il a la majorité, s'il tient tel ou tel propos et qu'il fait telle ou telle loi, qui sont à de nombreux points de vue problématiques, je pense que la société polonaise, parce que c'est un pays plus grand, est beaucoup plus forte qu'en Hongrie, grâce à la société civile et aux médias. Donc je ne pense pas que ça sera si facile pour M. Kaczynski de répliquer le modèle Orban. Et si l'on continue de comparer avec Orban en ce qui concerne Fico, je ne pense pas que cela soit pareil. Il a eu 4 ans de majorité absolue. Et s'il a encore gagné les élections, il va devoir trouver une coalition pour gouverner. Peut-être entre son parti socialiste et les nationalistes, ou alors avec des partis de centre-droit. Bien sûr, son parti Smer Social Démocratie est très hégémonique en Slovaquie. Ils ont leurs hommes partout. Et c'est un sacré avantage pour eux. Mais écoutez, de mon point de vue, très très personnel, vous savez, je travaille pour un média très proche du point de vue politique de Fico, d'accord ? Bon, mais moi je suis très critique de la politique de Fico. Et personne ne m'a jamais rien dit. Donc je pense que la situation ici est différente. Fico partage peut-être des positions avec Orban. Ils s'entendent très bien. Boivent du vin ensemble devant les caméras. Mais ce sont deux pays différents. Et même si l'opposition slovaque est divisée, elle n'est pas complètement faible. Et si Fico tentait d'aller trop loin, les gens résisteraient. Ils l'ont fait avec le régime semi-autoritaire de Vladimir Mečiar dans les années 90. Mais je ne pense pas que Fico veuille copier Orban, même s'il a pu y songer. Car il est suffisamment pragmatique pour comprendre que cela ne marcherait pas ici. Sans même parler de la réaction de l'Europe, il y aurait un retour de bâton sévère. Car par exemple, notre économie est très ouverte sur le monde extérieur. Et cela serait vraiment problématique. Donc je pense qu'avec Orban, ils partagent des points de vue. J'en suis persuadé. Mais je ne vois pas un vrai danger que la Slovaquie devienne comme la Hongrie d'Orban.
Le drapeau européen flotte sur le palais présidentiel de Bratislava, au cœur de la capitale. Pourtant, personne ne sait où va la Slovaquie. Le Premier ministre social-démocrate Robert Fico tient des propos islamophobes et anti-migrants. L'extrême droite radicale entre en force au Parlement et l'opposition libérale est éclatée. Et en plus, au 1er juillet, la Slovaquie prend la présidence tournante de l'Union européenne.
Sonia Somolani, politologue à l'université Jan Comenius de Bratislava.
Le soutien à ce parti d'extrême droite radicale, qui s'appelle le Parti du Peuple Notre Slovaquie, a eu lieu dans les mêmes régions où le Parti Nationaliste, le Parti du Peuple, durant la Première République Tchécoslovaque, entre les deux guerres, réussissait ses meilleurs scores. Bien sûr, il n'est pas question de reproduction génétique, mais l'héritage de la préférence nationale s'est reproduit à cause de conditions socio-économiques semblables à cette époque. Ces régions où l'extrême droite s'impose sont marginalisées économiquement avec les plus forts taux de chômage du pays et avec un important nombre de jeunes votant pour la première fois attirés par un discours opposition anti-établissement. Et la plupart de ces jeunes ne connaissent rien aux symboles néo-nazis utilisés par ce parti. Nous ne devrions d'ailleurs pas appeler les électeurs de notre Slovaquie des fascistes, pas du tout. On peut malheureusement dire que ces personnes sont totalement ignorantes de ces références, valeurs et symboles historiques utilisés par ce parti. Ce sont certes des électeurs typiques de ces partis d'extrême droite populistes que l'on peut trouver partout en Europe, pas uniquement en Europe d'ailleurs, si l'on parle des fondamentalistes. Ils sont fortement nationalistes, xénophobes, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont prêts à sombrer dans les actions violentes. Il faudrait donc être plus prudent, ne pas être hystérique, même s'ils ne sont pas que 8%. Car en fait, il y a un autre parti du nom de son fondateur, Boris Kollar. C'est un parti anti-système, mais pas de droite radicale. Juste un parti anti-établissement dans le genre « je ne suis pas un politicien, car les politiciens sont tous corrompus, je suis juste un entrepreneur honnête qui veut améliorer vos conditions de vie ». Vous savez, dans les régions marginalisées de Slovaquie, où jamais aucun homme politique des principaux partis ne met les pieds, les électeurs apprécient de voir quelqu'un qui semble les prendre en considération. Il ne faut donc pas faire le raccourci de dire que ces électeurs sont des néo-nazis, même si ce populisme est en fait une stratégie très efficace que Jobbik utilise également en Hongrie.
Voilà, on est toujours donc en Slovaquie avec votre reportage, Bruno Cadet. Il faut peut-être dire quand même que Robert Fico, depuis que vous y étiez, a formé une sorte de gouvernement. Alors, il n'est pas encore passé devant le Parlement, mais quelle alliance a-t-il pu trouver, puisque, rappelons-le, il y a 8 partis maintenant au Parlement slovaque.
Alors, il a obtenu une coalition qui n'est donc pas encore officiellement formée, mais qui est extrêmement hétéroclite, puisqu'elle comprendra le parti nationaliste SNS, que l'on pourrait qualifier en France, il fallait faire un petit peu une comparaison quelque part entre Dupont-Aignan et le Front National, qui avait déjà été au pouvoir avec lui en 2006, ce qui avait entraîné son exclusion du Parti Socialiste Européen. Donc il refait une coalition avec l'extrême droite, plus le parti qui s'appelle Most Híd, ça veut dire le pont en slovaque et en hongrois. C'est un parti centriste qui essaye de trouver un accord entre les communautés hongroises et slovaques, donc avec des nationalistes, ça risque de pas être simple. Et quatrième partie de la coalition, les libéraux de Siet, c'est-à-dire le réseau, qui eux politiquement et économiquement n'ont strictement aucun rapport avec le parti social-démocrate Smer de Robert Fico. Alors pourquoi cette coalition qui a priori ne va tomber sur rien? Parce qu'on l'a dit dans le reportage, le 1er juillet, la Slovaquie prend la présidence de l'Union Européenne, la présidence tournante, et s'il n'y a pas de gouvernement, ce sera une
catastrophe. Donc il faut un gouvernement. Alors on va s'adresser à notre invité à présent. Est-ce que effectivement, bon, cette alliance presque de la carpe et du lapin, est-ce que c'est symptomatique d'un clivage finalement gauche-droite qui n'existe plus, au moins en Slovaquie, peut-être dans d'autres pays d'Europe centrale ?
Alors, c'est assez difficile de répondre à cette question, bien sûr, puisque le clivage gauche-droite, c'est toujours difficile de l'universaliser. J'aurais tendance à dire que le clivage gauche-droite, dans les pays d'Europe centrale, et plus spécialement en Pologne, qui est un cas que je connais bien, il est peut-être plutôt brouillé. Les sociétés sont très clivées. Alors, elles sont clivées sur des lignes de division assez différentes les unes des autres, selon qu'on parle des franges politisées de la société ou moins politisées. Mais elles sont clivées, par exemple, entre les partis des territoires qui sont très développés économiquement et celles qui le sont un peu moins, clivées entre les électorats urbains et les électorats plutôt ruraux, et puis surtout clivées dans les franges politisées, cultivées des sociétés dans lesquelles, là, en revanche, il y a des processus de politisation à droite très très forts qui ont gagné dans l'après-communisme.
Justement, sur l'après-communisme, l'un des intervenants dit « le havelisme est mort ». Toute l'idéologie démocratique de la chute du mur est morte en Europe centrale.
Alors, il y a différentes manières de voir cette question, parce que d'une certaine façon, le havelisme en Tchécoslovaquie, en République tchèque, par la suite, il est mort assez rapidement, bien que Václav Havel soit devenu président de la République. À partir du moment, au début des années 90, où Klaus est devenu Premier ministre, ça a été sur des positions de rupture avec le régime communiste et de condamnation du régime communiste, qui était assez éloigné, en fait, des positions que Havel avait occupées sur une transition, on va dire, modérée, qui donne pas dans l'anticommunisme, dans entre guillemets la chasse aux sorcières contre les tenants de l'ancien régime. Mais d'une façon plus générale, là, pour élargir à l'ensemble de la zone, on peut dire que c'est globalement la vision modérée des changements qui était dominante au début des années 90, qui a perdu du terrain progressivement dans les années 90 jusqu'aux années 2005-2015, pendant lesquelles il y a un basculement, et c'est des visions plus conservatrices, plus anticommunistes qui se sont imposées et qui, de fait, sans doute conduisent la personne personnes qu'on a entendues à dire que le havelisme est mort. Oui, ça, d'une certaine façon, oui.
Alors, on va partir d'abord en Hongrie avant d'aller en Pologne, où là aussi, on pourra se poser la question de l'héritage, par exemple, de quelqu'un comme Walesa aujourd'hui en Pologne. Mais on va d'abord partir en Hongrie, à Budapest, qui est le plus ancien des trois pays qu'on visite aujourd'hui à avoir basculé dans le populisme avec la victoire de Viktor Orban. C'était en 2010. À l'époque, il a raflé, son parti a raflé les deux tiers des sièges au Parlement. Ça lui a permis même de changer la constitution. Éric Biegala, vous êtes allé donc en Hongrie et vous êtes penché sur l'une des politiques qui est vraiment révélatrice de l'idéologie que met en œuvre Viktor Orban. C'est la façon dont il traite la minorité rome, les roms qui constituent 10% de la population hongroise.
Oui Tara, si la Hongrie de Viktor Orban et plus largement les pays d'Europe centrale ont réagi de manière quasi hystérique à la perspective de l'arrivée sur leur sol de migrants en provenance du Moyen-Orient ces derniers mois, c'est peut-être surtout parce que ces pays n'ont pratiquement aucune expérience de l'étranger. À vrai dire, en Hongrie, les seuls étrangers que l'on connaisse, ce sont les Tziganes. Alors qu'on les appelle gitans, tziganes, roms, il s'agit surtout de la frange la plus déshéritée, la plus pauvre de la population hongroise. Et l'image qu'ont les Hongrois du tzigane est souvent réduite aux voleurs de poules, ou au mieux, aux musiciens de rue, qu'effectivement, on croise régulièrement en ville, comme ici, dans le métro de Budapest. Albert Orgon est un musicien, rom, de Budapest. Mais ce n'est pas un musicien de rue, il fait partie d'une certaine aristocratie, musicien professionnel, compositeur de jazz. Il ne se sent pas forcément chez lui en Hongrie.
Nous, on est toujours en train de partir de quelque part, d'un pays. On a toujours été des exclus. Je peux dire que je suis hongrois puisque je parle la langue. Mais si je me regarde dans une glace, je ne suis pas du tout hongrois. Si je me promène dans la rue, personne ne s'adressera à moi en tant que hongrois. Et quand je joue ma musique, les gens disent « Ah, voilà le gitan !» Tu sais, entre les juifs et les autres minorités, il y a les gitans. On vit ici depuis quoi, 500-600 ans, donc on est devenu une partie du folklore hongrois. Il y a le violoniste gitan. Si vous demandez à un juif s'il est juif ou hongrois, il vous répondra qu'il est juif. Eh bien moi, je suis gitan. On dit qu'il n'y a ni ségrégation, ni discrimination, mais c'est un mensonge, particulièrement dans la Hongrie d'aujourd'hui. C'est de plus en plus dur. Orban, notre premier ministre, à l'occasion d'un discours sur les minorités, il a dit « Personne ne vous a demandé de venir ici », en parlant de nous, les gitans, c'était il y a 2 mois. Et tout ça parce qu'il y a tous ces gens qui viennent du Moyen-Orient et que le gouvernement ne veut pas accueillir ce quota de 1200 personnes que l'Europe demande à la Hongrie d'accepter. En fait, il est en campagne, il met toutes les minorités dans le même sac, les réfugiés, les gitans. Et j'ai vraiment ressenti très durement cette phrase « On ne vous a pas demandé de venir ici ». C'est devenu difficile ici. Pour moi, ça va encore. Je suis jeune, je peux bouger, m'en aller si ça devient trop dur. Mais les gens de plus de 60 ans, comment ils peuvent gagner leur vie? Aujourd'hui, le gouvernement veut même retirer les aides et les pensions des personnes âgées. Et ce n'est pas seulement quelque chose que j'appréhende, je sais que ça va se passer comme ça.
Les craintes d'Albert Orgon ne sont pas qu'un fantasme. La politique du gouvernement hongrois vis-à-vis des tziganes prévoit entre autres la limitation de toutes les aides sociales. Zoltán Kovács est le porte-parole du gouvernement de Viktor Orban.
Je ne saurais pas vous dire comment mesurer l'intégration des uns ou des autres. Et en fait, cette idée de mesurer l'intégration des gens est une idée très libérale, très idéaliste. Nous avons choisi une approche plus pragmatique. Et ça fonctionne.
Quelle est cette approche ?
Eh bien qu'on ne va pas se concentrer sur l'un ou l'autre élément de leur quotidien, comme l'éducation par exemple, ou les conditions de vie ou la santé. Nous estimons que tout ça doit aller de pair de façon organique. L'essence de la stratégie hongroise concernant les Roms, c'est que tout doit être traité de concert. Quand on traite des conditions de vie de quelqu'un, il faut aussi s'intéresser à l'emploi, faire en sorte que les enfants aillent à l'école sans oublier la sécurité sociale. Ça veut dire qu'on ne donne plus d'argent. Nous pensons que tous ces dons, toutes ces aides allouées gratuitement ne servent à rien. Aujourd'hui, ces aides sont donc conditionnées. Si vos enfants ne fréquentent pas l'école, vous n'aurez pas d'allocation familiale. On a constaté une vraie chute dans l'absentéisme scolaire grâce à cette mesure. Et dans le même temps, on essaie de donner du boulot à ces gens pour que les enfants voient leurs parents aller au travail tous les matins. S'ils n'ont aucune qualification, ils peuvent faire des travaux d'intérêt général pour la commune où ils vivent. Et c'est ce qui marche le mieux. C'est même devenu prestigieux de travailler pour la commune. Vous n'êtes plus sans emploi, assis à la maison, à ne rien faire. Qui plus est, comme les aides sociales, ce n'était pas grand-chose, en travaillant pour les communes, vous pouvez espérer gagner 2, voire 3 fois plus. Au total, votre revenu augmente, vous travaillez pour votre communauté, vos enfants vont à l'école, votre niveau de vie s'améliore.
Mais le dispositif n'est pas réservé aux Roms.
Malheureusement, ce sont les Roms qui sont les plus affectés parce que, statistiquement, et pour des raisons historiques ou sociologiques, la proportion de gens très pauvres est plus importante chez les Roms.
Votre politique, en somme, c'est que toute aide sociale est aujourd'hui conditionnelle.
C'est ça. C'est pas discriminatoire, mais conditionnel. Et la condition, c'est que vous devez travailler, vos enfants doivent aller à l'école. Il n'est plus imaginable de rester assis chez soi, ne rien faire, en attendant que les aides sociales tombent. Ce temps-là est révolu. Et je crois pouvoir dire que ça commence à marcher. Ce n'est pas encore un succès. On n'a pas réglé le problème, mais on a fait des progrès.
Logé dans ce foyer pour SDF du centre de Budapest, Varga András, 54 ans, est l'un de ces tziganes désormais obligés de participer à ces travaux d'intérêt général.
Je touchais des aides sociales 22 500 forints, ce qui fait environ 80 euros par mois. Pendant un an, je n'ai rien reçu. Je n'ai pas reçu mes aides sociales. Et j'étais obligé de participer à ces travaux d'intérêt général pour recevoir cet argent mensuel.
Donc en fait, maintenant, ces aides sociales sont conditionnées par un travail.
Donc si tu ne participes pas à ces travaux d'intérêt général, ça s'arrête. Donc les gens qui participent à ces travaux d'intérêt général touchent 3300 forints de la journée, ce qui fait 10 euros.
Donc c'est un contrat d'un an.
C'est mon contrat, ouais, voilà, c'est mon contrat. Donc, pour le travail d'intérêt général, donc ce que je touche net, ce sera 45 000 forints, ce qui correspond à 150 euros par mois. Donc il y avait seulement un type de travail. Je devais ramasser les ordures. Donc en fait, il faut se présenter et toute la journée, tu nettoies la rue. Je faisais ça à Budapest. Je suis content de faire ça parce que j'ai jamais fait d'études. Je ne sais pas lire.
Et vous considérez que c'est un travail?
C'est mieux que rien.
Mert az egyénnek meg kell lenni, tetszik tudni? Az egyénnek meg kell lenni, hogy az ember megkapja azt a járat, azt a...
Et je suis obligé de faire ce travail parce que si j'arrêtais de faire ce travail, je ne toucherais aucune allocation sociale.
Most meg nem dolgozik.
Maintenant, on trouve des gens qui ont une quarantaine d'années, qui n'ont pas de travail, et on leur demande mais pourquoi tu ne travailles pas. Et ils répondent pour un salaire aussi bas, je ne veux pas travailler, je préfère aller faire des poubelles.
Aujourd'hui, souvent astreints à cette sorte de service du travail obligatoire quand ils sont adultes, les Roms de Hongrie sont aussi bien souvent victimes d'une véritable ségrégation dès le plus jeune âge. Orsolya Sendre est analyste politique pour l'European Roma Rights Center, une ONG qui lutte contre ces discriminations.
On considère que les enfants roms font l'objet de ségrégation à l'école si plus de 50% des élèves d'une école sont des roms. Parce qu'en Hongrie, normalement, seuls 8 à 10% de la population est rome. Et on constate que dans des villes importantes, qui comptent autour d'une centaine d'écoles, il y en a généralement une ou deux avec uniquement des enfants roms, alors que toutes les autres sont sans aucun enfant rome. Il s'agit généralement de petites écoles avec 100, 150 élèves, tous roms. Il est absolument impossible que dans une ville, disons de 300 000 personnes, on ne puisse pas distribuer ces 100, 150 élèves roms dans toutes les écoles.
Et puis il y a aussi ce dispositif qui oriente les élèves vers des institutions spécialisées pour enfants déficients mentaux. Et on s'aperçoit que dans ces institutions, pour malades mentaux, il y a essentiellement des enfants roms.
Oui, ces pratiques se poursuivent. Les enfants roms sont proportionnellement surreprésentés dans ces écoles spécialisées, conçues pour accueillir des enfants souffrant de sérieux troubles mentaux. Ces écoles ne sont évidemment pas conçues pour accueillir des roms ou des enfants de familles pauvres. Ceux-ci sont simplement victimes d'une ségrégation de la part des parents et des professeurs non-roms qui veulent juste se débarrasser d'eux. C'est une pratique qui remonte aux années 70 en Hongrie. Ce qui est malheureux, c'est que même si nous avons depuis 2004, depuis notre intégration en Europe, une loi garantissant l'égalité de traitement des personnes, cette loi n'est pas respectée. Même si on obtient des décisions de justice condamnant ces pratiques discriminatoires, même s'il y a eu des condamnations par la Cour européenne de justice, ces pratiques se poursuivent et sont toujours largement répandues dans le pays.
Aide sociale conditionnée à un travail quasi obligatoire, discrimination qui se poursuit à l'école pour les tziganes de Hongrie. Les politiques mises en œuvre sous Viktor Orban rappellent finalement beaucoup celles qui prévalaient du temps de János Kádár, du temps de la Hongrie communiste. C'était avant la chute du mur.
Voilà, reportage signé Éric Biegala. Vous écoutez le magazine de la rédaction sur les populismes en Europe. Nous sommes toujours avec Frédéric Zalewski. On vient d'entendre donc cette discrimination qui s'attaque là à une minorité, la minorité tzigane, la minorité rome. Est-ce que vous diriez que ce type de discrimination, on peut lier ça justement à un pouvoir populiste qui a besoin peut-être d'un bouc émissaire pour mieux faire fonctionner son gouvernement?
Alors je dirais oui et non. Il y a, je pense, un contexte un peu général qui est celui de la vision néolibérale ou ultralibérale du capitalisme, dans laquelle c'est ce qu'on appelle le workfare, c'est-à-dire il faut mettre les pauvres au travail, il faut en quelque sorte encourager l'activité parce que sinon les gens vont s'installer dans la pauvreté et ça va créer ce qu'on appelle des underclass, c'est-à-dire des gens qui sont durablement sur plusieurs générations installés dans la pauvreté. Ça c'est assez général et il n'y a pas besoin en fait d'aller en Europe de l'Est pour trouver des gens qui tiennent ces discours-là et même pas besoin forcément d'aller auprès des partis les plus extrémistes ou les plus populistes pour trouver ce type de discours. On peut le trouver de façon un peu diluée, y compris dans des partis de gouvernement, y compris en Europe de l'Ouest. Ce qui est, à mon avis, spécifique à l'Europe centrale et orientale, c'est que les pouvoirs communistes ont été vus après 89 comme ayant mis en place des politiques non seulement sociales, mais tout simplement des politiques économiques à travers la planification, qui ont créé justement des underclass et des groupes sociaux qui se sont reproduits en l'état dans le post-communisme. Et donc, ce discours-là, il a été assez dominant, et pas seulement chez les anticommunistes les plus radicaux ou autres, mais d'une façon générale, chez les libéraux. Et moi, par exemple, j'ai travaillé sur la paysannerie polonaise, et au cours des années 90, la paysannerie polonaise a très souvent, y compris parfois par des sociologues, été décrite comme une underclass qu'il fallait absolument pas protéger par des politiques de subvention ou d'exception, etc. C'était perçu comme des politiques qui allaient maintenir durablement la paysannerie polonaise dans la pauvreté et la Pologne, du coup, dans un état d'arriération économique.
Une question d'Éric Biegala.
Alors, vous disiez, vous suggériez que finalement, ces politiques qui sont mises en place et qui essayent de traiter cette underclass n'ont rien de spécifiquement est-européen. On retrouve ça partout, au moins dans le discours. On pense à des discours, vous dites, éventuellement de partis de gouvernement en Europe occidentale, voire aux États-Unis. Hein, si on écoute bien le discours d'un certain Donald Trump en ce moment, qui est en campagne, on a ce type de discours. On est vraiment dans un populisme ? Il n'y a pas de spécificité ?
Il y a une spécificité dans la mesure où les états sociaux dans les pays post-communistes n'ont pas pu être construits sur le long terme, dans la durée, et par des compromis sociodémocrates comme il y en a eu en Europe de l'Ouest, par exemple. Donc c'est ça la grande différence, c'est-à-dire que ça laisse beaucoup de latitude pour mettre en place ce type de politique. Donc de ce point de vue-là, c'est une spécificité. Mais dans l'orientation idéologique, je ne pense pas qu'il y ait de spécificité, et de mon point de vue, c'est des idées qui ont été importés en fait après 89, mais parfois avant, parce que les libéraux existaient avant en réalité, hein, même s'ils n'avaient pas du tout le même genre de tribune, mais qui ont été importés en tout cas dans les politiques publiques après 89. Voilà, c'est une sorte de révolution néoconservatrice importée dans ces pays après 89.
On va ouvrir le troisième volet de ce magazine de la rédaction en nous rendant maintenant en Pologne avec Catherine Pétillon qui est allée à la rencontre des électeurs qui se sont laissés séduire par le PiS, donc le parti ultra-conservateur des frères Kaczynski et aujourd'hui seulement de Jaroslaw, puisque son frère jumeau est décédé dans un accident d'avion. Alors, ce parti a organisé toute la campagne des législatives, c'était en novembre dernier, en novembre 2015, sur la peur des migrants, là encore, et sur la réactivation d'un imaginaire très nationaliste. Et ça a particulièrement bien marché, puisque la gauche a totalement disparu du Parlement polonais, et que 10 députés de l'extrême droite la plus radicale ont même été élus. Ce voyage de Catherine Pétillon en Pologne commence avec Lukasz Jurczyszyn, il est sociologue à l'université de Varsovie.
On voit un grand succès de mobilisation de la jeunesse, comme je l'appelle, la Pologne jeune nationale, donc les groupes nationalistes, les mouvements nationaux qui ont monté en Pologne, donc surtout ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques, même des organisations qui parlent aux jeunes. Surtout, le patriotisme, c'est à la mode aujourd'hui, pas uniquement en Pologne. Le patriotisme, c'est à la mode, c'est sur le t-shirt. Notre histoire commence à être intéressant pour les jeunes. On observe quelque chose de genre de pop patriotisme, ou même pop nationalisme. C'est l'attachement aux valeurs nationalistes qui est maintenant à la mode, qui est ressenti de plus en plus par plus vastes groupes sociaux et à cet attachement à des symboles comme le drapeau. On voit de plus en plus de drapeaux ici. Même dans les manifestations d'opposition d'aujourd'hui, on voit beaucoup plus de drapeaux nationaux qu'avant. Avant, c'était surtout caractéristique pour les manifestations du mouvement national. Donc maintenant, il y a cet attachement au symbolisme.
Comment vous pourriez définir en quelques mots les grands axes du discours du mouvement national ?
C'est surtout l'idée de la souveraineté nationale, que notre nation a cette définition ethnique, et surtout antisémite. Donc ça, c'est le cœur, en fait, du racisme, de la xénophobie à la polonaise. Et ils sont très antisémites, toutes ces organisations, tous ces mouvements nationaux en Pologne. C'est très caractéristique. Et bien sûr, aussi, c'est une force qui est anti-pluraliste, qui est anti-libérale, et qui ne voit pas les droits des minorités du tout. Donc ce n'est pas la démocrate.
Parmi les nouveaux héros promus par le discours patriotique, il y a les soldats maudits, un mouvement clandestin de résistance au régime communiste après-guerre. Depuis 3 ans, ils ont même leur fête nationale, célébrée début mars. Ce soir-là, au cinéma de Białystok, à 200 km à l'est de Varsovie, on projette un film en leur honneur. La soirée est organisée par l'Institut de la Souveraineté, une association patriote locale. À sa tête, Philippe, 25 ans, Il nous explique le tournant qu'a représenté pour lui en 2012 la mort du président Lech Kaczynski dans un crash d'avion à Smolensk. L'épisode a créé pour lui et ses amis, dit-il, un vide moral. Alors, il a créé cette association.
En un mot,
on peut dire qu'il s'agit de restaurer, de ramener la mémoire de l'histoire patriotique des Polonais. Pour les soldats maudits, on parle d'une histoire qui a été effacée, occultée pendant 40 ans de l'histoire de la Pologne.
Pour vous, ça représente quoi cet épisode historique?
Ça symbolise une lutte vers trois valeurs fondamentales, des valeurs que l'on pourrait résumer par ces trois mots. Dieu, l'honneur, la patrie.
En quoi c'est quelque chose, une question actuelle?
Alors, les soldats maudits sont caractérisés par leur endurance, leur détermination, leur courage face aux soviétiques. Et je pense qu'au moment où on traverse une période qu'une partie du pays vit de manière un peu douloureuse, je fais ici référence à l'affaire de Lech Wałęsa et à ce qui est sorti sur son passé, il me paraît essentiel de revenir à ces fondamentaux et de revenir à ces modèles en termes de courage et d'exemple, de valeur. Je pense que ces trois valeurs-là sont essentielles, notamment sans se référer à la patrie, enfin qu'il faut les appliquer à la patrie, surtout dans une Europe où les valeurs sont de plus en plus floues et veulent de moins en moins dire quelque chose.
Qu'est-ce que vous pensez de ce changement de gouvernement?
Oui, on sent un
vent un peu nouveau, par exemple dans les médias, déjà pour ne parler que des médias. Typiquement, les commémorations liées aux soldats maudits, avant, n'auraient jamais fait l'objet, enfin on sent qu'on en parle, qu'elles sont évoquées de manière beaucoup plus explicite dans la presse et dans les médias aujourd'hui. Je m'en réjouis, mais je crois qu'il faut tout de même préciser que l'arrivée au gouvernement, au pouvoir d'un nouveau gouvernement, qu'il y a une centaine de jours n'est que le début d'un long chemin pour retrouver un certain nombre de valeurs qui ont été perdues.
À Białystok, la soirée se poursuit par un débat avec un historien de l'Institut national de la mémoire, l'IPN. Cet organisme, principal acteur des enjeux mémoriels, est accusé par l'opposition de faire l'objet d'une reprise en main politique. C'est lui qui a publié fin février de nouveaux documents accusant l'ancien président Lech Wałęsa de collaboration avec la police politique communiste. Pour Jolanta Kurska, présidente de la Fondation Guéremec, ce nouveau récit national que le parti au pouvoir élabore est la toile de fond de la dérive autoritaire du pays.
Cela s'inscrit dans une nouvelle politique historique. Et cette nouvelle politique historique consiste à démolir les mythes de ce qu'on appelle la Troisième République. Donc c'est cette république qui a été créée ou née après 89, la chute du communisme. Donc le nouveau pouvoir en place voudrait détruire les mythes créés autour de cette construction, faire descendre du piédestal les architectes de cette construction de la démocratie polonaise, les compromettre et de montrer à la population « voilà qui étaient ceux qui ont construit la Troisième République ». Le but est clair. Parce qu'il n'y a pas seulement Wałęsa, vous voyez déjà les attaques ici et là sur telle ou telle personne, et je crois que ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Pour faire une césure avec la Troisième République, qui selon cette nouvelle politique historique est une république construite sur la base d'un compromis avec les communistes, donc de ce fait compromise. Donc il faut l'abolir et il faut faire une césure et il faut créer quelque chose de totalement nouveau. Et en 2005, il y a eu un concept nouveau de la Quatrième République. Évidemment, ce n'est pas une notion officielle ni constitutionnelle, mais c'est une notion qui, même si aujourd'hui elle ne réapparaît pas comme telle, on peut dire que on veut faire une césure, balayer la Troisième République et montrer que nous allons faire quelque chose de totalement nouveau. Nous allons créer un nouvel État, tout simplement, avec de nouveaux mythes. Et ce nouveau mythe, ça doit être Lech Kaczyński, donc le frère qui est mort dans l'accident de Smolensk. Et voilà, donc Lech Wałęsa était un traître, et celui qui est le véritable architecte de la chute du communisme et de la démocratie polonaise, c'est Lech Kaczyński. Or, ça ne passera pas. Enfin, ça ne passe pas pour la majorité de la population de ce pays, parce que ça n'est tout simplement pas vrai.
Est-ce que c'est sur cette idée d'une Nouvelle République que s'adosse aussi le discours nationaliste, patriotique, porté notamment par le PiS?
Oui, tout à fait, parce que le PiS sans être un parti nationaliste, parce que les nationalistes, vous les avez vus, il y a plus à droite et plus nationaliste encore que le PiS, le parti PiS utilise les éléments du discours nationaliste parce qu'il veut construire tout simplement une identité nationale se basant sur des éléments du discours nationaliste. Ils espèrent que ça peut servir la politique de ce gouvernement. Et ça a marché parce que face tout d'abord à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a une crainte qu'il y ait un danger pour la Pologne. Donc si vous voulez déjà ça, ça pousse les gens à avoir peur. Et lorsque vous créez un sentiment de peur, les gens ont tendance à se regrouper autour des idées de la nation. Enfin, le repli identitaire, c'est quelque chose qu'on connaît partout en Europe. Et ici, ça fait partie de ce repli identitaire. On a la guerre à l'Est, et puis on a cette vague de migrants qui va nous envahir. Donc il y a un nouvel élément de la peur qui a été très bien utilisé pendant la campagne électorale. Et je crois même que cette peur des migrants qui envahiraient ce pays-là a très bien aidé ce parti à gagner les élections.
Depuis 100 jours qu'il est au pouvoir, le parti Droit et Justice, le PiS, utilise à tout craint ce discrédit du système institutionnel pour légitimer ses réformes des institutions. Les ultra-conservateurs s'attaquent en effet au pas de charge aux médias, aux fonctionnaires ou encore à la justice. Konrad Zieleniecki, élu local et président des jeunes du PiS de Białystok.
La réforme de la justice, en particulier du tribunal constitutionnel, a été très critiquée par l'Europe à travers la commission de Venise, par les opposants qui dénoncent un danger pour la démocratie.
Moi, je leur réponds qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, tout simplement. J'ai un rapport plutôt calme à ces choses, elles ne m'inquiètent pas. Je pense qu'à chaque changement de gouvernement, c'est normal qu'un certain nombre de cadres de l'État changent, tournent. C'est également le cas au niveau de la justice, ça arrive assez régulièrement. Et d'ailleurs, quand la plateforme civique était au pouvoir, elle avait elle-même un tribunal constitutionnel qui lui était plutôt favorable.
Mais là, ce qui est en cause, ce n'est pas seulement les personnes, mais c'est aussi la fusion des pouvoirs entre le ministère de la Justice et le procureur. C'est le fonctionnement même du tribunal, c'est pas seulement une histoire de personnes.
Il est vrai que le ministre de la Justice récupère des pouvoirs très très importants, mais je pense que grâce à cela, notre sécurité s'en verra renforcée. Moi, j'ai longtemps vécu dans un sentiment d'insécurité dans notre pays, et je pense que le fait de lui donner ces pouvoirs, grâce à cela, les Polonais vont eux-mêmes se sentir plus en sécurité. Déjà, par exemple, il y a une dimension pour moi aussi historique dans tout ça. Après 89, on a fait relativement peu de choses pour demander des comptes aux personnes du régime précédent. Je pense notamment au SB, donc à ces services de sécurité intérieure d'avant 89. On leur a demandé relativement peu de choses.
J'observais
aussi avec inquiétude le fait qu'on continue à trouver après 89 à des échelons, à des grades très très élevés, par exemple des services de sécurité intérieure, etc., des gens qui venaient du régime précédent. Ils étaient restés en poste et les cadres n'avaient pas changé.
Et vous parlez d'insécurité, vous avez peur de quoi ?
Niebezpieczeństwo polegające na tym, że kraj nadal był rządzony.
Débat en sécurité, puisque après 89, on trouvait aux mêmes endroits les mêmes personnes qui avaient une influence très forte sur la vie publique auparavant. L'une des raisons de tout cela était probablement un processus de lustration avorté ou mal réalisé, mais surtout non réalisé, ainsi que le fait que justement ces services de sécurité intérieure ont été non seulement on leur a pas demandé de compte, mais ont été déguisés en quelque chose d'autre, sont restés en place et ont été déguisés en transformés en quelque chose d'autre.
L'Europe, elle, a vivement condamné cette réforme de la justice. La Commission de Venise, organe consultatif du Conseil de l'Europe, parle de menaces pour les droits de l'homme.
Voilà, c'est un reportage en Pologne signé Catherine Pétillon. Pour revenir à l'arrivée des Kaczyński à nouveau au pouvoir, donc là, il y a 4 mois au moment des élections législatives, est-ce que vous attendiez, vous êtes spécialiste de ce pays, à ce retour du PiS, donc ce parti ultra-conservateur, alors que finalement le parti qui était au gouvernement, qui était de centre-droit, la plateforme civique, avait plutôt un bon bilan, notamment économique? Comment expliquer du coup que finalement les Polonais aient cédé à ces sirènes nationales?
Il y a plusieurs choses. Je m'y attendais sans m'y attendre. Je m'y attendais en septembre-octobre parce que c'était les élections législatives, mais auparavant, il y avait eu les élections présidentielles et le PiS avait déjà remporté les élections présidentielles. À ce moment-là, on ne s'y attendait pas du tout, mais personne s'y attendait. Moi, j'étais en Pologne à ce moment-là et quand je suis arrivé, certains de mes interlocuteurs, de mes amis me disaient, mais le candidat du PiS, Andrzej Duda, c'est monsieur personne, il est inconnu, il ne peut pas gagner, il va perdre. Par contre, le PiS peut gagner les élections législatives. La véritable dynamique en faveur du PiS, elle s'est créée à ce moment-là, en fait. Hein. Alors après, sur le bon bilan de PO, sur le bon bilan économique, c'est vrai, mais il faut nuancer quand même. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un taux de croissance enviable qui pourrait faire envier pas mal de gouvernements en Europe
de
l'Ouest.
Donc c'est à peu près 3,5%
oui. Donc c'est, mais c'est insuffisant pour donner un sentiment de justice, de redistribution des richesses à l'ensemble de la société, et notamment aux franges les plus reléguées, soit dans les territoires urbains relégués, soit dans la partie la plus rurale de la Pologne, qui, en plus d'un point de vue idéologique, est plutôt un bastion conservateur, traditionnaliste, beaucoup plus enraciné, par exemple, dans le catholicisme que ne peut l'être l'ouest de la Pologne.
Alors, est-ce qu'on sait effectivement qui sont les électeurs du PiS, notamment, et peut-être aussi de l'extrême droite? Parce que là, enfin, tout à l'heure, Catherine a un peu évoqué, mais il y a aussi un parti encore plus radical que le PiS qui est entré au Parlement.
Oui, alors, les électeurs du PiS, c'est cette Pologne-là. C'est la Pologne qui estime qu'elle a été, pour plein de raisons, perdante des réformes, y compris pendant cette période de relative prospérité économique, mais qui n'a pas forcément été ressentie. Et il faut vraiment insister là-dessus, en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai relativement peu entendu dans les médias occidentaux, et spécialement dans les médias français. Le PiS a gagné les élections... évidemment, pas vraiment sur la question des migrants, hein, même si évidemment ça a permis de stigmatiser l'action du gouvernement libéral de PO, mais ils ont vraiment gagné les élections.
Ils
s'étaient
engagés à prendre quelques migrants, quoi.
Oui, c'est
un peu le plan Juncker.
Ça, c'est entre guillemets tardif, c'est au moment des législatives. Alors qu'en réalité, quand ils ont gagné les présidentielles, ça s'est joué vraiment sur le terrain social. Et ça, c'est vraiment important. Ça a vraiment été très structurant, je crois, de l'ensemble de leur ascension politique. Et quand Komorowski, le président sortant, a perdu les élections, il lui a été beaucoup reprocher de ne pas avoir de sensibilité sociale, mais le terme polonais pour dire sensibilité est plus fort, c'est vraiment quelque chose qui
vient du cœur.
Oui, voilà, qui vient du cœur, et il y a eu des images ravageuses où on le voit ne pas savoir parler à des gens très simples ou en situation de difficulté économique, etc. Ça a joué un très très grand rôle, et ça c'est vraiment important, je crois.
Une question d'Éric Biegala.
Oui, alors on comprend bien que cette vague de droite provienne d'une espèce de désespoir social, si on vous comprend bien, en tout cas en Pologne. Mais jusqu'à quel point ce virage à droite est-il vraiment de droite? C'est-à-dire, quelle est la partie populiste qui a fait que le PiS est revenu, tout simplement, et arrivé avec les Kaczynski, le dernier Kaczynski est revenu au pouvoir?
J'aurais tendance à dire qu'il faut regarder les choses sous l'angle de l'entreprise politique globale qu'a été le PiS à sa création et depuis sa création au début des années 2000, et qu'il faut voir comment ce parti a su structurer une offre politique crédible et fédérer la droite polonaise autour d'un certain nombre d'idées que le PiS a justement réussi à mettre en relation les unes avec les autres. Alors autour de la décommunisation, comme ayant été incomplète et on l'a bien entendu dans le reportage, autour de la lutte contre la corruption qui a été liée à la question de la décommunisation, parce que les plus corrompus sont censés être ceux qui ont bénéficié des privatisations, donc ceux qui avaient des accointances avec les communistes. Ça c'est valable pour l'ensemble des pays de la zone en réalité, enfin ce type de dénonciation c'est valable pour la Hongrie aussi par exemple. Et de ce point de vue, le reportage était intéressant parce que le jeune militant du PiS qu'on a entendu faisait le lien entre ce type d'insécurité liée à la corruption en fait dans des sphères assez élevées de la société, et l'insécurité du quotidien en réalité. Il parle d'insécurité comme ça en faisant l'amalgame entre les deux. Et c'est assez révélateur qu'il fasse cet amalgame parce que le PiS a réussi justement à construire, à mettre en cohérence toutes ces thématiques qui auparavant pouvaient exister dans l'espace politique mais n'étaient pas forcément reliées dans un même projet politique, et qui a été bien décrit comme étant un projet de rupture avec ce qui est appelé en Pologne la Troisième République, c'est-à-dire le régime qui est issu du régime communiste.
Qui
en
a
référence...
juste succédé au régime communiste, celui qui est arrivé après la Révolution, après la chute du régime communiste.
La Deuxième République étant la Pologne problème de l'entre-deux-guerres. Voilà.
Oui, une question de Bruno Caden.
On vient de l'entendre en Pologne. Les jeunes ont voté en grande partie pour PiS. En Slovaquie, si on étudie un petit peu les résultats du parti néo-nazi qui est rentré au Parlement avec 8%, on voit qu'il y a eu une forte partie des 18-21 ans qui votaient pour la première fois, qui ont voté pour ce parti néo-nazi. Comment expliquer cela ? Est-ce que ça veut dire que la génération qui a fait 89, qui a fait la chute du communisme, n'est pas parvenue à apprendre la démocratie aux plus jeunes ? C'est leur échec un petit peu ?
D'une certaine façon, oui, on peut dire ça. J'en reviens aussi un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que avec le reflux, d'une façon générale, des grandes narrations de gauche, toutes les narrations issues du marxisme, etc., le projet néoconservateur est apparu comme ayant un peu le vent en poupe, et il a été en mesure, lorsque précisément ça a été structuré dans des projets fédérateurs et ainsi de suite, de politiser la société et donc les jeunes qui sont, pour certains d'entre eux, susceptibles d'être politisé. Cela étant, je pense que c'est quand même des fractions assez minoritaires. En réalité, comme dans toute société où la jeunesse se politise, c'est toujours des fractions minoritaires de la jeunesse qui se politise. Et ce qui est assez frappant, je crois, dans le cas des jeunesses d'Europe centrale et orientale, et en tout cas pour la Pologne, c'est que c'est plutôt une forme de désespoir, le terme est peut-être un peu fort, mais de très fort scepticisme envers la politique, de déception envers la Pologne qui s'est construite après 89. Et ils ont surtout fourni des bataillons d'électeurs à un candidat qu'on peut aussi qualifier de populiste, c'est l'ex-rocker Cookies, voilà. Donc lui a bénéficié d'un vote jeune extrêmement fort. C'est lui qui a en fait, c'est vers lui que les jeunes se sont portés le plus fortement. Et l'aspect générationnel, il est important parce que justement, la génération la plus âgée est assimilée à celle qui a fait 89, mais elle est assimilée à une génération installée, vieillissante, qui a perdu un peu le contact avec la Pologne de maintenant et qui est un peu tournée vers cette époque.
Quel est l'intérêt quand même aujourd'hui du pouvoir, du PiS, de faire tomber des figures comme Waleza qui déjà sont presque un peu tombées d'elles-mêmes? C'est pour créer quoi? Quel genre de régime voudrait mettre en place finalement Jaroslav Kaczynski? Dites-nous comment vous le voyez. C'est vraiment un populiste, un apprenti quasi-dictateur, enfin j'exagère, hein, mais voilà.
C'est une question complexe, ouais. Parce que ça nécessiterait, il y a déjà la question sur Waleza, puis globalement, ce qu'ils veulent faire comme type de régime, c'est des...
ils mettent au pas les médias,
oui, bien sûr,
c'est
des questions qui sont liées, mais qui sont chacune à traiter un peu séparément. En fait, Waleza est d'abord le symbole, évidemment, de la lutte contre le communisme, mais il est aussi le symbole de la Pologne de l'après 89, en fait, hein, qui, par exemple, n'a pas mené de décommunisation, n'a en tout cas pas suffisamment abouti aux yeux de la droite radicale et de la droite anticommuniste. D'une certaine façon, faire tomber le symbole de Waleza, c'est dire, vous voyez bien, la Pologne de l'après 89, elle était corrompue, elle avait encore des accointances avec le communisme. D'ailleurs, la preuve, si Waleza était un informateur de la police politique avant 89, c'est bien qu'il a pu ensuite protéger les anciens communistes, on a pu le faire chanter. Bref, ce régime politique de l'après 89, il n'est pas fiable, il faut le remplacer par autre chose. Et là, on rentre justement dans ce qu'ils veulent faire, qui est un... Je pense que c'est là que c'est très intéressant, c'est que de leur point de vue, et c'est pareil pour Orban, il y a une forte motivation, en tout cas à leurs yeux, bien entendu, mais une forte motivation de réinjecter de la démocratie dans le régime qui s'est mis en place après 89, qui, à leurs yeux, justement, a été...
Alors, qu'est-ce qu'on appelle démocratie dans ces cas-là?
C'est-à-dire qu'à leurs yeux, les régimes qui se sont installés après 89 ont fait l'objet d'une sorte de collusion, en fait, entre les élites communistes, notamment au moment des privatisations, et donc il y aurait eu, d'une certaine manière, une forme de redistribution des richesses en faveur de réseaux issus de l'ancien régime et au détriment de la population, au détriment des gens dont ils représenteraient les intérêts. Donc là, on retrouve effectivement une sorte de rhétorique un peu populiste en opposant les gros et les petits. Mais je pense que ce qui est important là-dedans, c'est qu'ils arrivent à habiller ce discours avec la mythologie ou les codes de la lutte contre le communisme, en fait. Hein. Et c'est un discours de réactivation de la société civile qui est mobilisé pour légitimer ce type de projet.
Une question de Bruno Caden.
Très rapidement, est-ce que la société civile dans ces pays peut renverser la vapeur ou est-ce que ces populistes ont définitivement gagné pour de longues années?
Je pense que c'est difficile de ne pas différencier entre ces pays. Je pense que dans un pays comme la Pologne, il y a quand même des réserves encore pour que la société résiste. Mais évidemment, comme partout, ça dépend de combien de temps ça dure, ça dépend de la capacité des oppositions à se constituer comme crédibles, à reconstruire des offres politiques qui puissent emporter des élections.
C'est-à-dire qu'on a entendu dans le reportage qu'apparemment les Polonais seraient peut-être plus résistants que les Hongrois. Vous adhérez ?
Pas nécessairement, parce que je ne crois pas forcément qu'il y a une sorte de force intrinsèque aux sociétés civiles. Comme ça, c'est aussi un discours idéologique, hein, la société civile. Mais ce qui est certain, c'est que il y a quand même un certain niveau de pluralisme assez important. Justement, ça, c'est un des acquis quand même de l'après 89, c'est qu'il y a un niveau de pluralisme assez important. Et aujourd'hui, en Pologne, il y a des médias qui continuent à écrire exactement de façon très très critique ce qu'ils veulent sur le gouvernement Kaczynski.
Pourtant, il y a eu des réformes qui touchent les médias.
Dans les médias publics, pour l'instant. Voilà, mais évidemment, c'est préoccupant, mais pour l'instant, ça concerne les médias publics.
On aurait pu parler évidemment de la réaction de l'Union européenne face à ces populismes qui sont en train de prendre place dans ces pays d'Europe centrale. Merci beaucoup, Frédéric Zalewski, d'avoir répondu à notre invitation. Ce magazine de la rédaction Europe centrale, La tentation populiste, était signé à la fois Bruno Cadenne, que je remercie aussi, Éric Biegala et Catherine Pétillon, qui sont partis tous les trois en reportage. Réalisation Annie Bro, à la technique aujourd'hui, Myriam Guillot. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site, la podcaster, la commenter sur franceculture.fr grâce à Éric Chavroux.